Hello, bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Humbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bonsoir. Je suis super contente, comme chaque semaine, de me retrouver dans tes oreilles. Et cette semaine, je vais te parler d'un sujet un peu personnel, un peu polémique. J'ai pas mal hésité avant d'écrire cet article et cet épisode de podcast, mais il est temps de parler de sujets qui peuvent potentiellement fâcher. Bon, quand je dis potentiellement fâcher, quand même, il faut rester dans une moindre mesure parce que je reste quand même très mesurée dans mes propos et quand même plutôt tolérante vis-à-vis de ce dont je vais parler. Aujourd'hui, je voulais te parler plus particulièrement de tout ce qui tourne autour de la loi de l'attraction, l'astrologie, le human design et la pensée critique. Et pourquoi je te parle de ça maintenant? C'est parce que cet été, j'ai écouté un très grand nombre d'épisodes de podcast, d'un podcast au nom un petit peu mystérieux qui s'appelle Méta de choc. C'est un podcast qui m'a énormément plu et moi, quand quelque chose me plaît, je plonge à fond dedans. Donc, en gros, j'ai passé mon été à écouter des épisodes de Méta de choc. C'est un podcast qui parle de métacognition. Alors ok, j'avoue, le mot n'est pas le plus abordable de la Terre. Et comme toi, j'imagine, quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai pas du tout compris de quoi il s'agissait. Mais en fait, la métacognition, c'est le fait de réfléchir sur nos propres manières de penser. Comme dit dans l'intro du podcast, et c'est une phrase qui est extrêmement pédagogique, je trouve, en gros, la métacognition, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense. Alors, comment te dire qu'en tant que passionnée de psychologie, de remise en question personnelle, de décortication de mes pensées depuis à peu près toujours, c'est un sujet qui m'a vraiment appelée. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai passé mon été avec mes tas de chocs vissés dans les oreilles, avec comme effet secondaire des prises de conscience sur mes croyances et mes pratiques, des bonnes remises en question comme on les aime, des questionnements. Et soyons honnêtes, ces moments sont jamais super agréables, ces moments de remise en question, mais en vrai, moi je les aime quand même, parce que généralement, quand ils surviennent, eh ben, ça débouche sur de grands pas en avant dans ma vie. Donc j'accepte ces moments d'inconfort avec pas mal de bienveillance en me disant que ces moments d'inconfort vont aboutir sur des moments d'épiphanie, de prise de conscience et d'évolution. Alors je t'ai parlé de remise en question et je vais te donner dans cet épisode de podcast des exemples très concrets sur des sujets sur lesquels j'ai pas toujours de réponse à donner, mais en tout cas ce que je veux c'est amener chez toi des questionnements et peut-être éventuellement des discussions passionnées, parce que peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ce que je vais dire, et c'est ok, et j'ai très envie d'avoir des discussions passionnées avec toi, si c'est le cas. Et donc on va commencer par parler d'une notion importante qui s'appelle le New Age. Avant l'écoute du podcast, j'avais plus ou moins entendu parler du mouvement New Age, mais, alors c'est très cliché, hein, mais j'associais ce terme à des espèces de mouvances hippies des années 70, des croyances un peu psychédéliques et des communautés qui sont isolées et qui prennent du LSD pour vivre des expériences extraordinaires. Alors oui, hein, je t'ai prévenu, c'est très cliché. Et en fait, je me suis rendu compte que le New Age, effectivement, ça englobe ça, mais ça ne se définit pas essentiellement par ce genre de pratique. En fait, le New Age, il rayonne tellement dans nos vies aujourd'hui, il est tellement présent partout que, bah, personnellement, moi, cette prise de conscience, ça m'a donné le tournis. Alors, c'est quoi le New Age? C'est un courant de pensée spirituelle qui prend ses sources au début du XXe siècle, et du coup, non, c'est pas du tout ancestral comme type de croyance, et qui va aller piocher dans diverses croyances du monde entier. Et le but du New Age, c'est de transformer les individus par l'éveil spirituel. Et donc, bah, les principes, ils reposent sur rien sur du vent, sur des... Enfin, quand je dis sur du vent, c'est un peu péjoratif, mais c'est en gros, c'est sur des croyances. En fait, ce que je veux dire quand je dis que ça repose sur du vent, c'est que bah, les différents principes du New Age n'ont jamais été, jusqu'à maintenant, prouvés par des expériences scientifiques, et donc, pour le moment, ils ne reposent que sur des croyances. Mais ça ne les empêche pas d'être repris à tort et à travers, particulièrement dans la sphère du développement personnel. Donc aujourd'hui, moi, je vais te parler de quelques pratiques New Age, dont j'ai déjà plus ou moins parlé en introduction, qui sont la loi de l'attraction, l'astrologie et le design humain. Et surtout, si jamais le New Age et ses dérives t'intéressent, je t'invite à écouter le podcast Méta de Choc. Ou si tu préfères Instagram, je te conseille en ressource un compte qui s'appelle Dérives spirituelles et qui propose des publications extrêmement documentées sur cette question-là. Avec le podcast, j'ai donc découvert une discipline qui permet d'exercer son esprit critique et qui s'appelle la zététique. La zététique, c'est la pratique du scepticisme. C'est le fait d'aller confronter des points de vue à des recherches rationnelles. Et donc, c'est de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Le but initial de la zététique, c'était de s'attaquer aux pseudosciences, comme bah, l'astrologie, l'homéopathie, la psychanalyse et plus encore, pour montrer que ces pseudosciences donc, n'ont aucun fondement scientifique. Et au final, la zététique, bah, elle s'est élargie aux différentes questions de société. Et puisque la zététique, elle met en avant la méthode scientifique, bah, il est tout à fait logique qu'elle s'appuie elle-même sur l'esprit critique, qui mêle un ensemble d'aptitudes et de dispositions permettant d'analyser, de trier et d'évaluer efficacement les informations, leurs sources et les arguments invoqués pour soutenir telle ou telle affirmation. Donc si je résume, tout ça, ça permet de prendre un peu de distance avec ce qu'on croit être vrai, ça permet de croiser les sources, ça permet de qualifier ces sources aussi, parce qu'elles ne se valent pas toutes, et en vrai, c'est un vrai travail de fourmi. Alors pour le moment, je peux pas t'en dire beaucoup plus sur la zététique et l'esprit critique, parce qu'en fait, je considère que je commence à peine ma plongée dans cet océan de connaissances, mais moi-même, comme je suis perdue par moments face à l'avalanche d'informations dans laquelle j'évolue chaque jour, bah j'avoue que cette méthode de tri de l'information me rassure, dans une certaine mesure. Et quand je vois que rien que dans le milieu de la formation en ligne dans lequel j'évolue, quand je vois les absurdités qui circulent, en toute décontraction, hein, bien entendu, et qui génèrent à la fois de l'argent tout en n'aidant pas du tout les gens, bien au contraire, bah, je peux pas m'empêcher de m'informer et de partager toutes mes découvertes et questions avec toi. Et donc on va maintenant commencer par la première croyance qui est de loin ma préférée, la loi de l'attraction. Alors je vais commencer en avouant. Dans une moindre mesure, j'ai cru à la loi de l'attraction à un moment donné quand j'étais une jeune entrepreneuse en recherche de connaissances. Mais à un moment donné, sur Netflix, il y a eu un documentaire qui est passé qui s'appelait Le Secret et qui est basé sur le livre du même nom et donc qui parle de loi de l'attraction. Là, par contre, j'ai cru tomber de ma chaise. Un petit mot pour celles qui ne connaissent pas la loi de l'attraction. C'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Et je crois qu'en fait, cette croyance, c'est vraiment une des plus toxiques que j'ai pu croiser ces dernières années. Parce que même si je pense que cette loi est basée sur un fond de vérité, comme la plupart des croyances d'ailleurs, et ce fond de vérité, en fait, c'est le fait de considérer un objectif à atteindre comme prioritaire et y penser régulièrement. Et ça, en fait, ça te permet de mettre ton objectif au centre de ton centre de l'attention au niveau du cerveau. Et du coup, ton cerveau, il va se mettre en alerte sur des potentielles opportunités qui te permettront d'atteindre cet objectif. Alors, je l'ai déjà expliqué dans un épisode de podcast, je te mets le lien dans les ressources. Mais en gros, c'est comme, si je te donne un exemple très très rapide, c'est comme si à un moment donné, tu décides d'acheter une voiture bleue d'un certain modèle. Donc, tu le mets vraiment au centre de ton attention, c'est ta préoccupation du moment. Et comme par hasard, tu vas voir passer plein de voitures de ce modèle et de cette couleur dans ton environnement proche. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc ça, effectivement, c'est un fond de vérité. Mais après, les créateurs de la loi de l'attraction ont extrapolé tellement autour de cette base que ça en devient ridicule et dangereux. Parce que, en gros, Ça veut dire que, si, enfin, d'après la loi de l'attraction, si je pense très fort à quelque chose que je veux, dans le vocabulaire de l'attraction, je vais dire, si je manifeste suffisamment ce que j'ai envie, bah, je vais finir par l'avoir. Peu importe que j'agisse ou pas. Si je l'ai bien manifesté, si j'ai bien pensé fort à ce que je voulais, je vais l'avoir. Par contre, si au contraire, il m'arrive des choses pas très cool dans la vie, ce sera certainement parce que j'y aurais pensé et que j'aurais manifesté ces pensées négatives. Tu vois un petit peu le corollaire de la loi de l'attraction? Et du coup, avec ces deux exemples, tu te rends compte que, ben, avec la loi de l'attraction, je vais entrer dans un contrôle systématique de mes pensées. Avec, en bonus, une culpabilisation qui se déclenchera automatiquement dès que j'aurai des pensées négatives. Alors, au-delà du côté déjà toxique de ce que je viens de t'expliquer, cette loi, elle met complètement de côté l'environnement dans lequel on vit. Et cet environnement, en fait, il a des répercussions énormes sur notre manière de penser, notre manière de nous comporter et les résultats de nos actions. Parce que bien sûr, il est plus facile de prouver le succès de la loi de l'attraction quand tu es quelqu'un pour qui tout va bien, que tu es à l'aise financièrement, que tu es dans un environnement tranquille et que tu n'as pas d'entourage toxique. Ce qui me dérange vraiment avec cette croyance, et d'ailleurs c'est le cas de pas mal de croyances New Age, c'est qu'elle te fait croire que tout ce qui t'arrive dans la vie est de ton propre fait, et que toute seule, tu peux parvenir à tout régler si tu as suffisamment de volonté, bien entendu. Et ça, en fait, c'est une croyance qui est super dangereuse, parce qu'en fait, elle est complètement fausse. Et ce genre de croyance peut avoir des effets dévastateurs sur ton estime de toi, puisque il va te culpabiliser si jamais t'arrives des choses négatives, alors que c'est pas forcément de ta faute, c'est peut-être aussi que tu es dans un environnement qui n'est peut-être pas propice à ton développement personnel. Donc, culpabilité, effet dévastateur sur ta capacité de jugement, et donc on te dit que tout est de ta faute ou tout est grâce à toi. Et je le répète, c'est faux. Deuxième effet pas très cool, c'est que cette loi, elle te pousse à pas du tout agir pour obtenir ce que tu souhaites. Si tu réussis pas à obtenir l'objet de tes désirs, c'est parce que tu n'as pas assez manifesté, tu n'as pas assez pensé à ton désir. Alors que mettre en place des actions qui vont te pousser à atteindre ton objectif, c'est une stratégie qui est quand même beaucoup plus payante que mettre en place des actions qui vont te pousser à mieux penser. Je pense que voilà, il vaut mieux se mettre en action plutôt que sans arrêt penser à ce qu'on veut. C'est important de penser à ce qu'on veut, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur les objectifs et sur les raisons d'être. C'est une base super importante à toujours avoir en tête, mais si derrière tu n'agis pas, bah, il y a peu de chances que des choses t'arrivent en fait. Logique. Et du coup je me pose la question, est-ce que toi de ton côté tu connais la loi de l'attraction? Est-ce que tu es une adepte de la loi de l'attraction? Et si oui, qu'est-ce que ça t'évoque tout ce que je viens de dire sur la loi de l'attraction? Je suis très ouverte pour échanger avec toi sur ça, sur Instagram ou par mail. Maintenant que je t'ai parlé de la loi de l'attraction, je vais passer à un deuxième sujet qui est l'astrologie. J'ai écouté cet été encore une longue interview d'un des spécialistes de la pensée critique liée à l'astrologie, bien entendu sur MetaChoc, et je te mets le lien dans les ressources de l'épisode. Et je rajoute que dans les ressources de cet épisode-là, il y a énormément de sources liées à ce que la personne raconte dans l'interview. Et en fait, en écoutant cette longue interview, je me suis rendu compte que l'astrologie, ça repose sur du vent, encore une fois. Parce que par exemple, moi je suis une amatrice modérée d'astrologie, je pense comme 95% de la population, j'aime bien l'astrologie, j'ai déjà regardé mon signe, mon thème astral, etc. Et voilà, en tant qu'amatrice modérée, je me disais que les prédictions astrologiques étaient liées au mouvement réel des planètes et des étoiles, et que ces dernières pouvaient avoir un impact sur nos vies, ce qui, à mon sens, peut totalement s'entendre. Alors, je précise que j'ai pas fait de recherche sur ce sujet précisément, mais je me dis que bon, voilà, astrophysique, physique, il peut potentiellement y avoir des effets selon où se trouvent les planètes. Ça me semble pas déconnant. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vas voir, si tu penses comme moi, en fait, c'est absolument pas le cas. L'astrologie, elle se base sur des mouvements planétaires qui sont complètement théoriques. En fait, t'as des personnes qui se basent sur ces mouvements théoriques, qui, je le répète, n'ont aucun lien avec les mouvements réels de ces astres, n'est-ce pas ? Ils se basent sur ces mouvements théoriques pour créer une pseudo-science qui est censée prédire nos comportements et pensées. Alors, je sais pas toi, mais rien que cette information, moi, ça m'a complètement refroidi par rapport à l'astrologie. Sérieusement, qui va décider qu'un mouvement théorique de Mars, qui n'est absolument pas réel, je le répète, va avoir un impact sur mon signe ce mois-ci? Qui va décider qu'en ce moment, Mercure est en train de rétrograder, alors que c'est pas du tout le cas, et que ça va avoir un impact négatif sur nos vies? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire confiance à ces personnes et ces prédictions qui ne sortent de... je sais pas où. Alors, oui, j'avoue, hein, c'est plaisant quand même de regarder son horoscope, de se dire quel trait de personnalité prêté à mon signe astrologique correspond totalement à qui je suis réellement. Ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Mais c'est le moment aussi où je vais te parler de l'effet Barnum. Je ne sais pas si tu connais cet effet, c'est un biais cognitif qui induit toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Donc en fait, c'est un biais cognitif qui, donc tu le comprends, va vraiment jouer sur l'astrologie, puisque on sait bien hein, que par exemple, quand on écoute à la radio notre prédiction astrologique du jour, on arrive plus ou moins à se retrouver dans notre signe, et en fait, si on faisait l'exercice, je pense qu'on pourrait plus ou moins se retrouver dans à peu près toutes les descriptions de signes. Et du coup, l'effet Barnum, il s'applique aussi à pas mal de tests de personnalité, genre le MBTI, par exemple, qui est très très décrié, parce que, spoiler alert, il n'est absolument pas scientifiquement prouvé, encore une fois. Et c'est un effet qui est beaucoup utilisé dans les tests de personnalité. Bon, après, voilà, c'est plaisant de regarder son signe astrologique, son horoscope, etc. Mais bon, là où ça devient moins drôle, c'est quand une personne que je connais assez peu me demande direct, pour apprendre à me connaître, de quel signe je suis. Et donc, elle va automatiquement me ranger dans une case, éventuellement me prêter des traits de caractère qui seront complètement faux, et induire une image du coup complètement fausse de qui je suis. C'est moins drôle aussi quand t'as un manager ou un RH qui regarde les signes astrologiques de ses collaborateurs pour savoir si oui ou non un poisson va vraiment bien s'intégrer dans l'équipe. Et c'est encore une fois pas du tout drôle quand une coach te conseille de ne rien entreprendre en ce moment parce que Mercure rétrograde et que tes projets ont peu de chances de réussir. Donc dans ces cas-là, oui, l'astrologie commence à légèrement me déranger. Même si je respecte les croyances de chacune, et que je trouve aussi certains comptes Instagram sur l'astrologie assez drôles et rafraîchissants, je me dis que quand ça commence à entrer dans le quotidien et que ça devient un prétexte à entreprendre telle ou telle action, on ferait bien de s'interroger sur la pertinence de cet outil. Maintenant que je t'ai parlé de la loi de l'attraction et de l'astrologie, je vais te parler du human design, ou design humain en français, et de mon expérience avec cet outil. Parce que autant j'utilise très peu la loi de l'attraction et l'astrologie dans ma vie quotidienne, voire pas du tout, autant l'année dernière, j'ai eu un gros coup de cœur pour le design humain. D'ailleurs, j'ai fait un article de blog dessus, je te mets le lien dans les ressources de l'épisode. Et j'avoue que ça a été assez difficile pour moi d'admettre que je me suis peut-être un peu emballée pour une discipline qui paraît certes incroyable, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'expliquer la pertinence de certaines explications dans le design humain. Mais encore une fois, c'est une discipline qui repose sur du vent. Parce qu'en fait, le design humain, c'est une espèce de réunion de plusieurs autres disciplines comme l'astrologie, donc on a vu que c'était bidon, les centres du chakra, qui sont bidons aussi, enfin en tout cas tant qu'ils ne seront pas prouvés scientifiquement, il y a l'énéagramme dedans aussi, qui est bidon, et soi-disant, il y a des notions d'astrophysique dans le design humain. Alors ça, du coup, je vais pas dire que c'est bidon, hein, puisque bon, l'astrophysique, c'est quand même une science. Mais si on part du principe que le positionnement des planètes est le même que celui de l'astrologie, alors l'astrophysique, elle n'a aucune place dans la théorie du human design. Donc encore une fois, hein, quand je dis bidon, je veux dire que ces disciplines ne reposent sur aucune étude scientifique sérieuse et qu'à ce jour, il y a aucune preuve justifiant ce qu'elles avancent. Peut-être que ces preuves arriveront dans les prochaines années, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, à ce jour, il n'y a rien. Alors je sais que je prends beaucoup de précautions dans cet épisode, hein, mais je précise encore une fois que chacune est libre de croire ce qu'elle souhaite, et que moi-même, j'ai des croyances qui sont absolument pas rationnelles, et c'est totalement ok. Par contre, je considère que c'est très risqué, déontologiquement, de vendre des services basés sur ces croyances. Parce que le risque de comportement à dérive sectaire est fort, et que la maltraitance du coup, est forte également aussi. Maintenant que la parenthèse est refaite pour la xème fois, je te l'ai dit, quand j'ai découvert le design humain, j'ai plongé la tête la première dedans, parce que je suis comme ça, quand quelque chose m'intéresse, je plonge. Et j'ai littéralement bassiné tout mon entourage avec ça. Bon, par contre, j'étais quand même ultra sceptique sur la jeunesse de la discipline, mais je me suis dit que j'allais mettre ça de côté pour explorer tout le reste, en restant cependant prudente à ne pas engloutir tout mon temps libre dans des recherches liées au human design. Et avec du recul, je me dis que mon instinct me parlait déjà à l'époque et avait déjà tiqué depuis un bon moment. Et j'ai vraiment commencé à conscientiser l'espèce de malaise que j'avais vis-à-vis de cette discipline en m'inscrivant à des groupes Facebook dédiés au human design. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le fondateur, qui s'appelle Ra Uru U, il est présenté comme une sorte de prophète. Et il y a quantité de discussions sur ses écrits et ses paroles, et surtout sur les interprétations que les uns et les autres peuvent en faire. Et bien sûr, du coup, il y a certaines personnes qui n'interpréteraient pas correctement les paroles de Ra, alors que d'autres, oui. Et régulièrement, ces paroles sont publiées, traduites, largement commentées dans les groupes. Et je sais pas toi, mais personnellement, ça me met légèrement mal à l'aise et j'ai presque l'impression d'être tombée dans une pratique religieuse lorsque je tombe sur ce genre de publication et ce genre de remarques. Ensuite, deuxième malaise, on peut observer très rapidement dans les groupes Facebook beaucoup de déterminisme chez les personnes qui interagissent. Alors par exemple, au niveau de l'autorité, donc l'autorité en human design, c'est ce qui va te permettre de prendre des décisions qui sont alignées avec toi. Prenons un exemple, si j'ai une autorité sacrale, alors ça signifie que quand je dois prendre une décision, j'ai une espèce de réaction viscérale et immédiate qui se manifeste immédiatement. Donc, si j'ai une autorité sacrale, j'ai pas besoin de réfléchir. Je dois juste écouter mon centre sacral pour savoir si je vais dire oui ou non. Par contre, si jamais j'ai une autorité émotionnelle, je ne peux pas prendre de décision correcte si je n'attends pas que ma vague émotionnelle soit passée. Donc ça signifie que si j'ai si j'ai une autorité émotionnelle, je ne dois jamais prendre de décision immédiate, contrairement à l'autorité sacrale. Maintenant que j'ai dit ça, du coup on revient dans ces groupes Facebook et j'y vois énormément de personnes qui se forcent à prendre des décisions immédiates ou qui se forcent à attendre parce qu'ils savent qu'ils ont une autorité sacrale ou émotionnelle. Et ces personnes, elles culpabilisent si elles n'arrivent pas à écouter leur autorité. Étant moi-même dans un cas particulier, moi j'ai une autorité environnementale selon le human design, et je t'avoue que je me suis beaucoup questionnée sur son fonctionnement et que j'ai moi-même un peu culpabilisé de ne pas comprendre comment elle fonctionne réellement, parce qu'elle est assez compliquée celle-là. Je te donne un autre exemple. En human design, moi je suis du type projecteur. Donc ça signifie qu'avant d'entamer toute action importante, je dois attendre l'invitation de quelqu'un d'autre. En gros, je ne peux pas entamer une action qui serait correcte avec moi-même ou prendre une décision correcte si j'ai pas été invitée par quelqu'un d'autre. C'est pas à moi d'initier dans ce monde. Et donc, forcément, je suis en contact avec beaucoup d'autres personnes qui sont également projecteurs, puisque je me suis inscrite à des groupes spéciaux. Et ces personnes, elles attendent un signe provenant de quelqu'un d'autre, inlassablement souvent, avant d'entreprendre la moindre action importante pour leur business ou leur vie personnelle. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé cette année. Je me suis vraiment beaucoup questionnée sur la sortie de mon podcast. Est-ce que je devais le créer ou pas? Est-ce que ça allait fonctionner si je recevais pas d'invitation? Et en vrai, ça m'a fait retarder mon projet. Mais j'ai fini par me dire que, ça suffisait, j'allais pas non plus me faire dicter mes actes par le human design. Et j'ai fini par écouter mes tripes, ce qui est une très mauvaise décision en tant que projecteur mental, hein, on s'entend bien. Et j'ai quand même lancé mon podcast. Et là, je suis sur le point de lancer ma formation. Et franchement, pour le moment, tout va très bien, je te rassure. Mais là où je voulais en venir, c'est que je vois beaucoup de monde utiliser son design pour prendre des décisions, justifier un comportement, se mettre dans une case, et je trouve ça dérangeant. Parce que de mon point de vue, ça permet de se cacher derrière des théories pour justifier son comportement et les résultats de ses actes, et ça, c'est jamais très sain. Dernier gros malaise dans les groupes Facebook dédiés au human design, un jour j'ai décidé de poster un message, il y a quelques mois, pour demander s'il existait des expériences scientifiques qui venaient prouver les explications avancées par le human design. Parce que j'étais à fond dans mon écoute du podcast MetaChoc et je commençais à me poser quelques questions. Et j'ai reçu une réponse de la part d'une modératrice du groupe. Donc elle est là depuis le début du groupe, elle utilise le human design au cœur de sa pratique professionnelle depuis de nombreuses années, et sa réponse m'a clairement fait penser aux arguments qu'avancent les croyants un peu hardcore de tous horizons. En fait, elle me disait qu'elle voyait pas comment mettre en place un protocole scientifique qui tienne la route pour prouver toutes les assertions du human design, et que de toute façon, toutes ces années d'expérience lui avaient bien prouvé que le human design, ça fonctionne. Et donc, elle a placé son expérience personnelle au-dessus des preuves scientifiques. Et là, il y a vraiment quelque chose de super important si jamais tu veux commencer à t'initier à l'esprit critique. Et donc, si je peux te donner un conseil, c'est que lorsqu'une personne tient ce genre de discours, bah, tu peux te questionner sur l'objectivité de sa démarche. De manière générale, il est quand même sage de considérer que l'expérience personnelle ne constitue pas une preuve, et du coup, l'expérience personnelle ne prime pas sur les expériences scientifiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut te mettre la puce à l'oreille quand on t'avance des arguments. De dire « oui, mais avec moi ça marche, avec mon expérience ça a fonctionné ». Bah ok, c'est très bien, mais c'est pas une preuve. Maintenant que je t'ai parlé de loi de l'attraction, d'astrologie, d'human design, je vais continuer avec du coup mes questionnements. On va conclure cet épisode là-dessus. Donc tout ça m'a amené à me questionner sur le développement de mon business de formation en ligne et d'accompagnement des entrepreneuses. Parce que pour ce business, j'évolue dans la sphère des infopreneurs. Donc ce sont les entrepreneurs en ligne qui proposent des formations. Et c'est une sphère qui est occupée par de nombreuses croyances comme celle que je viens de te décrire. Alors il y en a bien d'autres qui circulent. Et comme j'ai précisé, moi aussi j'ai certaines de ces croyances bien entendu. Elles sont pas rationnelles, elles sont pas prouvées par la science. Mais je considère que c'est tout à fait ok à partir du moment où j'en ai conscience, que je vois les répercussions que ça peut avoir, et que je choisis de croire tout de même. Et surtout, si jamais je te parle un jour de ces croyances, je le préciserai, que c'est pas prouvé, que c'est une croyance que j'ai, et je t'inviterai à faire tes propres recherches pour te faire ton propre point de vue sur la question. Et là où ça devient vraiment problématique, ces croyances, c'est quand tout ça devient un business qui va profiter des peurs de certaines personnes et qui ne va rien leur apporter de bon. Et en fait, c'est hyper facile de monter des business basés sur des croyances New Age, parce que une des plus grandes forces des croyances New Age, c'est qu'elles te proposent des solutions rapides à tes problèmes. À chaque fois, on te dit, je vais t'expliquer comment tu fonctionnes, je vais te proposer des solutions, et ça va être facile et ça va être rapide. Donc déjà, dès qu'on te dit ça, ça devrait allumer une petite ampoule dans ta tête pour dire, ah tiens, je vais peut-être me renseigner un petit peu plus sur les méthodes de cette personne. Parce que c'est sûr, c'est beaucoup plus rapide d'aller regarder son thème astral que d'aller chez une psychologue ou un psychiatre pour se comprendre et travailler sur soi, par exemple. Après, je dis pas, moi aussi j'ai déjà succombé à ce genre de croyances et à ce genre de discours, et c'est tout à fait humain d'aller à la rapidité, à la facilité quand on a un problème. Parce qu'on n'a pas tout le temps envie, ni la force, ni la motivation de passer par des chemins un peu sinueux et longs. Des fois on a juste envie d'aller mieux rapidement. Par contre, quand on commence à générer du chiffre d'affaires en exploitant les faiblesses et les peurs de son audience, et en proposant des solutions potentiellement dangereuses, je trouve ça ultra problématique. Sachant tout ça, j'ai bien entendu remis totalement en question mon business d'accompagnement et de formation des entrepreneuses, parce que je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de devenir un gourou, j'ai pas envie de proposer des solutions de facilité, et j'ai pas envie d'exploiter des personnes qui me ferait confiance. Puis, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, j'ai discuté avec pas mal de personnes de mon entourage, et je me suis rendu compte que quand même, mes méthodes n'étaient pas basées sur des croyances et que je me mettais des garde-fous qui pouvaient me permettre de pas tomber dans ces travers de croyances New Age. Déjà, j'essaye de chercher toujours des sources scientifiques avant d'avancer des faits, et lorsque c'est pas le cas, je préviens mon audience. Par exemple, dans le précédent épisode de podcast dans lequel je te partage mon expérience et que je te fais le bilan émotionnel et organisationnel de ma gestion du temps, je te parle d'une méthode que j'ai utilisée de gestion des émotions qui, à mon sens, selon mes recherches, n'est pas encore prouvée scientifiquement, mais que d'après les recherches que j'ai pu faire outre sur le cerveau, ça me paraissait pas déconnant. Mais je te préviens quand même que c'est pas une méthode médicale scientifiquement prouvée. Ensuite, je me renseigne beaucoup sur la psychologie sociale et le fonctionnement du cerveau. Je commence aussi à me renseigner sur la zététique, sur les pratiques New Age, et justement ça c'est pour prendre du recul aussi par rapport à ma pratique. J'essaye d'en discuter beaucoup aussi avec mes amies entrepreneuses ou d'autres personnes pour prendre du recul, avoir des regards extérieurs et toujours avoir une vision plus ou moins objective, même si c'est impossible d'avoir une vision 100% objective, mais sur cette pratique. Ensuite, je propose des méthodes qui sont absolument pas miracles. Ça nécessite du travail du côté de mes clientes, ça nécessite du temps, et ça ne marche pas sur tout le monde. Et j'annonce tout ça sans aucune ambiguïté. Après, bien entendu, je me rends compte que je suis pas du tout parfaite, et il y a certainement d'autres éléments à remettre en question dans mes pratiques, mais une de mes particularités aussi, c'est que je suis très ouverte à la critique, et je suis très ouverte à me remettre en question. C'est des choses que je fais très régulièrement, et je pense que c'est un élément qui est très important dans ce processus de déconstruction des croyances. Et c'est le moment où je termine cet épisode de podcast sur ces quelques réflexions, et je te laisse aussi avec les tiennes. Et j'aimerais beaucoup échanger avec toi sur le sujet, que tu adhères à ce que je viens d'avancer ou pas du tout. Donc dis-moi tout sur Instagram en message privé ou par mail, ou on peut aussi prendre rendez-vous pour en discuter de vive voix, ce serait vraiment avec grand plaisir. Je te souhaite une super fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine !